Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Léa Sabourin, Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Louis Drillon et Guillaume Ménard. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Alice Seyed.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Comme tous les vendredis, notre semaine s'achève par un débat d'actualité économique. Aujourd'hui, ce sont les ressorts de l'insolente croissance américaine que nous allons examiner. Tandis que la Commission européenne a abaissé pour la seconde fois ses perspectives de croissance, prévoyant une hausse de seulement 1,4% du PIB en 2019 en Europe, l'économie américaine poursuit inlassablement son ascension. La croissance au premier trimestre a largement dépassé les prévisions, et cela malgré les incertitudes liées aux négociations commerciales avec la Chine. Le pari risqué de Donald Trump, fondé sur la hausse des dépenses publiques et la baisse des impôts, semble avoir porté ses fruits. Jamais depuis 1969, le chômage n'avait été aussi bas et jamais la popularité du président américain n'avait été aussi élevée. Alors comment expliquer cette éclatante santé de l'économie américaine ? Faut-il en attribuer le mérite à Donald Trump ? Et la croissance peut-elle se maintenir alors que le président américain vient de mettre fin à la trêve commerciale avec la Chine ? Voilà les questions qui vont nous occuper aujourd'hui. À 14h45, on retrouvera la bibliothèque idéale de l'Écho. Dominique Meurs nous fera découvrir la grande économiste américaine Claudia Goldin et son ouvrage « Comprendre l'écart entre les sexes, une histoire économique des femmes américaines ». Et pour parler de la robuste santé de l'économie américaine, trois invités autour de la table. Bonjour Anton Brender.
Bonjour.
Vous êtes chef économiste de Candria, mais auteur de L'économie américaine, paru l'année dernière à la découverte dans la collection Repères. À vos côtés, Christophe Blau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste à l'OFCE et professeur associé à l'université Paris-Nanterre. Et enfin, Bruno de Moura-Fernandez, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes économiste spécialiste de la France, de l'Amérique du Nord et du Royaume-Uni chez l'assureur Crédit Coface. Un grand merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui.
Notre économie est aujourd'hui la meilleure de la planète et le monde entier nous envie. À chaque fois qu'un dirigeant étranger, qu'un président, qu'un premier ministre, qu'un roi, qu'une reine, qu'un dictateur, parce qu'il y en a aussi, à chaque fois qu'ils arrivent dans mon bureau, ils me disent tous « Bravo pour ce que vous avez fait à votre économie, c'est la meilleure de la planète, c'est incroyable ». À chaque fois, c'est comme ça qu'ils commencent la conversation. Et vous le savez, parce que vous, en Floride, vous profitez directement de ce que nous avons fait, ici et à l'international. Donc merci. Notre politique peut être résumée en trois mots très simples. De l'emploi, de l'emploi, de l'emploi. L'économie américaine a encore créé 260 000 emplois le mois dernier.
Voilà un extrait du discours de Donald Trump prononcé hier à Panama City en Floride. Les États-Unis ont enregistré une croissance de 3,2% au premier trimestre 2019, dépassant les prévisions. La croissance américaine, que l'on disait en trompe-l'œil, se révèle finalement plus durable que prévu, Anton Brender.
Je ne sais pas qui disait qu'elle était en trompe-l'œil. Enfin, ce qui est sûr, c'est que on est sur une croissance américaine qui dépasse clairement ce que certains attendaient. Ça dépasse pas mal aussi ce qu'on connaît en Europe. Mais par rapport à ce que disait Donald Trump, il faut peut-être ajouter que c'était presque la règle depuis des décennies. L'économie américaine a toujours eu, pendant les années 80, les années 90, une croissance qui dépassait la moyenne de celle des autres pays avancés. Oui. C'est pas une innovation de Donald Trump. Jusqu'à quand ça va durer, c'est une des questions dont il faut reparler.
Ce qui se dit aussi du côté des démocrates, c'est que la reprise après la crise financière avait été entamée par Barack Obama. Effectivement, la question, c'est quelle est la part de la politique menée par Donald Trump et qu'est-ce qui avait été déjà fait par ses prédécesseurs, Christophe Blau ?
Effectivement, c'est-à-dire qu'il y a eu une reprise économique qui a été enclenchée après la grande récession. Cette reprise, elle s'est enclenchée à partir de 2010-2011 avec une croissance effectivement déjà plus rapide que celle de la zone euro. potentiellement, en fait, dès 2017, l'économie américaine pouvait arriver dans une situation qu'on peut qualifier un peu de fin de cycle, avec une situation assez proche du plein emploi. C'est à ce moment-là que Donald Trump arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Il mène une politique budgétaire clairement très expansionniste, avec la réforme fiscale et une augmentation des dépenses pour 2018-2019. Et donc ça va venir en fait amplifier un cycle qui était déjà bien amorcé. Et donc ce qui contribue finalement à maintenir la baisse du chômage, à poursuivre la baisse du chômage et avoir les bonnes performances qu'on a enregistrées pour 2018 et qu'on observe encore au premier trimestre 2019.
Avant d'en venir au détail des mesures qui ont été prises par Donald Trump, un mot sur cette croissance américaine. Bruno de Moura Fernandez, est-ce que ce que l'on constate, c'est que malgré la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, ça n'a pas empêché les États-Unis de connaître une croissance importante?
Pour le moment, c'est vrai que effectivement, en 2017 puis en 2018, l'économie américaine a accéléré. Probablement, elle aurait tout de même accéléré encore en 2018, même si on n'avait pas eu Donald Trump et ses mesures. Après, effectivement, on estime l'impact de sa réforme fiscale à 0,3 points de PIB. Donc, c'est que tout de même, on peut mettre ça à son crédit. Et on peut aussi mentionner le fait que la confiance des entreprises a continué en fait à accélérer, à s'améliorer en 2018. Là où il est vrai que le reste des pays avancés, en fait, eux, ont atteint leur pic en 2017 avant de ralentir en 2018. Donc peut-être que, effectivement, ce petit plus, ce petit boost en 2018, on peut le mettre à son crédit.
Alors, il y a le calcul de ce qu'a apporté la réforme fiscale, mais ce sont des calculs difficiles à élaborer. Anton Brander, selon vous, quel a été l'impact véritable de cette réforme qui a donc été décidée par Donald Trump et adoptée fin 2017?
La réforme fiscale, ça a été une réforme qui a consisté à baisser massivement les impôts au bénéfice d'abord des entreprises et aussi des ménages américains les plus riches.
Alors, qu'est-ce qu'on a constaté ? Pour les entreprises, c'était de 35 à 21%.
C'est de baisser le taux d'impôt sur les profits des entreprises. La conséquence, il y avait une conséquence qui était annoncée de ça, c'est que les entreprises ayant plus de profits allaient investir plus. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, l'investissement des entreprises américaines est soutenu, mais il est en train, depuis un moment, de décélérer. Sa contribution à la croissance américaine, elle est relativement en train de s'éroder. Et ce côté-là de la stimulation a joué de façon positive. Ça contribue au 0,3% dont on a parlé, mais pas aussi importante qu'annoncée, et puis est en train de s'arrêter. Et puis la deuxième chose, c'est que ça fait monter la bourse, tout simplement parce que les entreprises ayant des profits après impôts qui étaient plus élevés, leur valeur en bourse a augmenté. Et aussi parce que les entreprises ont utilisé une grande partie des baisses d'impôts dont elles ont bénéficié pour racheter leurs actions. Autrement dit, elles ne se sont pas servies pour investir, mais pour soutenir leur cours de bourse, racheter leurs actions, ce que les entreprises américaines font depuis très longtemps.
Donc ce que vous dites, c'est que ça a bénéficié à la sphère financière plutôt qu'à l'économie réelle.
Ça a bénéficié, non pas à la sphère financière, ça a bénéficié à ceux qui détenaient des actions, c'est-à-dire aux quelques pourcents des Américains les plus riches qui sont investis en bourse, qui détiennent l'essentiel des actions, et ce sont eux qui ont bénéficié de ces baisses d'impôts. Un deuxième titre, d'ailleurs, c'est qu'on a baissé les baisses d'impôts sur les ménages. Elles ont bénéficié surtout aux ménages les plus riches. Donc au total, si on va jusqu'au bout de ce point-là, on aurait pu attendre qu'avec la hausse de la bourse et les baisses d'impôts, les ménages américains dépensent plus. C'est pas ce qu'on a constaté. On constate que le taux d'épargne des ménages américains, il reste relativement élevé. Et malgré la hausse des cours de bourse, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu de progrès, de baisse de leur taux d'épargne. Donc au total, les effets de la réforme fiscale ne sont pas aussi pleins que Donald Trump l'avait annoncé.
La réforme fiscale a été un coup de pouce certain, mais qui sera ponctuel aussi, selon vous, Christophe Blot?
Je crois que plutôt que pour en revenir au point que vous évoquiez au départ, en parlant de croissance en trompe-l'œil, moi je parlerais plutôt d'une croissance à risque, effectivement avec le risque financier qui peut augmenter lié à la réforme fiscale, et aussi le risque lié à la dette publique, puisque en fait, une partie de cette croissance est financée par un endettement croissant des États-Unis. C'est-à-dire que globalement, si on regarde aujourd'hui le déficit fédéral pour l'année 2018 aux États-Unis, il est de l'ordre de 4%. Alors qu'on est en une situation où le taux de chômage n'a quasiment jamais été aussi bas depuis la fin des années 60, comme on le disait au début.
Donc, dans une situation de haut cycle, finalement,
la dette publique et la dette fédérale a augmenté. Elle a pris 40 points pendant la crise. Elle continue à augmenter alors que, justement, depuis 2011, on a une phase de croissance qui est plutôt soutenue aux États-Unis. Donc, la question, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'hypothéquer plutôt l'éventuel ressort d'une dynamique future et ensuite, en plus, de mettre en place un certain nombre d'éléments de risques financiers qui pourraient se matérialiser à court ou à moyen terme.
C'est quelque chose qui a été effectivement beaucoup reproché à Donald Trump, c'est de mener une politique économique à court terme. Est-ce que cette question de la dette publique fait débat, Anton Brander, aujourd'hui aux États-Unis, le fait de creuser cette dette publique, on entend assez peu de choses.
Je crois que creuser la dette publique en soi, parce qu'en France, on a l'habitude, et en Europe en général, de dire dès qu'on creuse la dette publique, les choses, ça devient quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire. Creuser la dette publique en soi, ce n'est pas forcément un problème. Le vrai problème, c'est que Donald Trump creuse la dette publique, fait de la stimulation budgétaire à un moment où c'est particulièrement inopportun. Mmh. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'entend très mal avec le gouverneur de la Banque centrale qu'il a lui-même nommé, c'est qu'il baisse les impôts, il fait de la stimulation budgétaire pour stimuler l'économie, en tout cas c'est comme ça qu'il le présente, à un moment où la Fed, elle, considère, la Réserve fédérale, considère qu'il faut freiner l'économie. Et donc on est dans cette situation où d'un côté le président voudrait que l'économie aille plus vite, et où de l'autre côté la Réserve fédérale est beaucoup plus prudente et considère que l'économie doit être ralentie. D'où ces tensions permanentes entre vous montez les taux, il ne faut pas monter les taux, entre le président et le gouverneur de sa banque centrale.
Et par ailleurs, c'était un pari risqué qu'a fait en effet Donald Trump parce que ces mesures qui ont été prises risquaient de relancer l'inflation. Or, ce qu'on a constaté aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas eu pour le moment de dérapage des prix, Bruno de Moura Fernandez.
Effectivement, pour l'instant, si on regarde les chiffres d'inflation, ils sont de façon assez surprenante assez bas. Effectivement, la Fed également a un peu de mal à comprendre pourquoi il y a si peu pour l'instant de tensions inflationnistes. C'est pourquoi elle a dit notamment qu'elle suspendait sa politique de hausse de taux dans l'attente justement de futurs chiffres et de voir si les tensions inflationnistes venaient à se matérialiser.
Après avoir augmenté les taux à 4 reprises en 2018.
Exactement. Ensuite, bon, on peut effectivement se demander s'il y a eu une certaine influence de la part des déclarations de Donald Trump, qui effectivement lui demandait même à ce qu'on baisse les taux. Au regard des chiffres du premier trimestre, on peut penser qu'une hausse des droits, encore une fois, du taux directeur aurait été opportune, qu'il pouvait rester encore de la place pour de la marge pour une hausse supplémentaire.
Oui, cette décision finalement de la Fed est tout de même assez étonnante. On peut se demander si la Fed a cédé aux pressions de Donald Trump qui a insisté justement pour que ces taux ne soient pas encore remontés, Christophe Blau.
Étonnante, oui et non. C'est-à-dire, quel est l'objectif de la Fed ? Enfin, la Fed a un double mandat. Le mandat, c'est plein emploi et stabilité des prix. La stabilité des prix, elle le définit aujourd'hui comme une inflation autour de 2%. Si on regarde l'inflation aux États-Unis, elle converge vers 2%, mais en fait, elle dépasse pas 2%. Et donc, du coup, en fait, c'est ce qui explique en partie pourquoi la Fed a fait une pause. C'est-à-dire que certes, effectivement, la situation macroéconomique est très bonne, mais il n'y a pas de tension inflationniste. Et donc, ce qu'elle va plutôt chercher à faire, tout du moins jusqu'ici, c'est de se rapprocher de ce qu'on pourrait qualifier de neutralité de la politique monétaire. C'est-à-dire un moment où les taux d'intérêt sont à un niveau où ils ne soutiennent plus l'activité, mais ils ne créent pas non plus de frein contre l'activité.
Souvent entre 2 et 3%.
Alors, il y a beaucoup d'incertitudes sur ce taux neutre, parce que c'est pas quelque chose qu'on observe. Il y a beaucoup de travaux sur le sujet. Aujourd'hui, a priori, effectivement, ça semble converger vers quelque chose entre 2 et 3%. Donc 2,5, ça semble assez cohérent avec ça. Maintenant, la question est effectivement de savoir si la dynamique qui est en cours en termes d'activité économique peut générer de l'inflation. Et dans ce cas-là, on verra quelle est l'attitude de la Fed et on verra si oui ou non elle cède aux pressions politiques de Donald Trump.
Et en même temps, est-ce que ce n'est pas quand l'économie va bien, justement, qu'il faut remonter les taux, Anton Brander, pour précisément pouvoir les rebaisser si jamais l'économie va moins bien ?
Alors ça, je crois que c'est un raisonnement qui est assez étrange, mais qu'on entend souvent. Non, je crois qu'il faut replacer la politique de la Fed dans son contexte. Après la grande crise financière, le taux de chômage a explosé aux États-Unis. Ensuite, la politique de la Fed et la politique budgétaire ont aidé l'économie à reprendre. C'est la reprise la plus lente qu'on ait jamais observée aux États-Unis. Donc il a fallu des années pour que le taux de chômage descende continuellement et qu'on l'amène sous la barre des 4%. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette période ? Non seulement le taux de chômage a baissé, mais quand on calcule le taux de chômage, on oublie les gens qui se sont retirés du marché du travail. Or, après la grande crise financière, on a vu aussi beaucoup de gens sortir du marché du travail, c'est-à-dire renoncer à trouver un emploi. Il n'était pas compté dans les chômeurs. Donc aujourd'hui, qu'a fait la Fed ? Et ça, c'est Janet Yellen qui a conceptualiser, si je puis dire, la stratégie, ça a été de dire, cette économie, si je veux la pousser à ses limites, il faut que je la laisse croître le plus longtemps possible, jusqu'à ce que non seulement le taux de chômage baisse, mais qu'en même temps que le taux de chômage baisse, ceux qui sont sortis du marché du travail reviennent sur le marché du travail, tout simplement parce que les entreprises ne trouvant pas de main-d'œuvre, eh ben on va aller chercher, aujourd'hui on va chercher des gens qui sortent de prison. Hein, le président JP Morgan se vante publiquement d'avoir recruté des gens qui sortaient de prison. Ça, c'est quelque chose qui ne se passe que lorsque le marché du travail on a épuisé pratiquement les ressources de main-d'œuvre. Et ça, c'est un des grands succès, non pas de Donald Trump, mais de la façon dont la politique monétaire a été conduite. On a laissé l'économie épuiser les ressources de main-d'œuvre jusqu'à ce que les salaires accélèrent et que, ce qu'on est en train de peut-être constater, les entreprises, du coup, se mettent à économiser du travail, puisqu'il est de plus en plus cher et de plus en plus rare, et faire des gains de productivité. Et la grande inconnue, et c'est pour ça que la Fed est prudente, mais en même temps patiente, c'est est-ce qu'on va voir maintenant la productivité accélérée, sachant qu'il n'y a plus de main-d'œuvre pratiquement sur le marché du travail américain.
Et en même temps, la productivité a augmenté récemment aux États-Unis. Anton Brender, excusez-moi, Christophe Blow, comment est-ce qu'on peut l'expliquer ?
Effectivement, par les mécanismes qui viennent en partie d'être décrits, c'est-à-dire que globalement, la reprise qui s'était enclenchée à partir de 2010-2011, c'était une reprise avec très peu de productivité. Et ce qui alimentait tout le débat qu'on a eu aux États-Unis, mais également dans la zone euro, sur une croissance relativement faible et de façon un peu plus durable. Donc le débat sur la stagnation séculaire avec une économie plongée dans un régime de croissance faible et d'inflation qui n'arrive pas à décoller. Ce qu'on observe sur les derniers trimestres, c'est effectivement une accélération de la productivité. Donc on peut mettre en lien avec la situation sur le marché du travail. Alors pour l'instant, c'est des données sur 4-5 trimestres, donc on n'est pas en train de vraiment de savoir si on a une vraie accélération de la tendance de productivité et potentiellement du potentiel de croissance américain ou si c'est un facteur encore un peu temporaire. De la même façon, on observe la même chose sur les salaires. Et il y a un lien probablement entre l'évolution de la productivité et l'évolution des salaires. C'est-à-dire que les salaires qui étaient restés excessivement plats malgré la reprise, aujourd'hui recommencent à accélérer. Donc, et éventuellement, du coup, dans les mois qui viennent, va se poser la question de savoir est-ce que ça mord ou pas sur l'inflation, et donc ça peut changer le diagnostic de la Fed.
Ce qu'on a pu entendre, effectivement, c'était que la faible inflation était liée au fait que les salaires augmentaient peu, et peut-être aussi au fait qu'il restait des emplois précaires, parce que la question qui se pose, effectivement, c'est la qualité de cet emploi. Je le disais, un chômage au plus bas depuis 1979, donc 3,6% de la population active. Mais alors, est-ce qu'il s'agit en grande partie de temps partiel ou d'emplois précaires? C'est l'une des questions qu'on peut se poser, Christophe Blow.
Alors, oui, c'est-à-dire que si on regarde des indicateurs élargis de taux de chômage, en fait, pour les États-Unis, le Bureau of Labor Statistics calcule différents taux de chômage. Donc, il y a le taux de chômage au sens du BIT, comparable entre tous les pays, qui est effectivement le chiffre de 3,6 que vous citiez avant. Mais il y a des taux de chômage qui tiennent compte ce qu'on appelle des travailleurs découragés, c'est-à-dire que des personnes qui étaient sorties du marché du travail, qui souhaiteraient travailler si le marché du travail, en gros, leur permettait d'avoir, de vivre à peu près correctement. Et un autre taux de chômage aussi, qui est calculé, qui tient compte, en fait, du temps partiel subi. Si on regarde ces deux taux de chômage-là, enfin ces évolutions de ces indicateurs-là, ils sont quand même en amélioration. Certes, effectivement, on a moins de données historiques, mais si on regarde par exemple donc le taux de chômage que les Américains appellent U6, qui tient compte de ces travailleurs découragés et de ces temps partiels subis, on a baissé. Donc, ce qui veut bien dire que la croissance, elle s'est aussi accompagnée par des personnes qui ont pu revenir sur le marché du travail et par des personnes qui sont moins en situation de précarité sur le marché du travail. Pour autant, si on regarde ce niveau de chômage-là, on est quand même encore à un niveau plus élevé que celui du précédent pic de 2006. Donc, ça veut dire que globalement, de ce point de vue-là, il reste encore de la précarité, bien entendu, et le marché du travail américain reste un marché dans lequel il y a beaucoup de précarité, mais il y a quand même eu une amélioration, qui peut aussi en partie expliquer pourquoi on observe plus récemment cette dynamique des salaires.
Mais ce que cela signifie aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qu'on peut aller chercher, une main-d'œuvre possible, qui pourrait permettre à la croissance de poursuivre à ce rythme, Anton Brender ?
Il y en a, mais il faut être réaliste, il y en a aussi de moins en moins. C'est un peu ça qui fait la tension sur le marché du travail, et vous avez une série d'enquêtes qui montrent que, surtout si vous regardez du côté des hommes, il y a de moins en moins d'hommes qui soient employables et qui n'aient pas d'emploi. Il faut rappeler aussi qu'aux États-Unis, les hommes en particulier ont été victimes de ce qu'on appelle la crise des opioïdes, qui fait qu'une partie d'entre eux aujourd'hui ne sont pas employables. Et donc, les taux d'emploi auxquels on va arriver pour les hommes, en particulier de 25-54 ans, c'est-à-dire le cœur de la population active, ces taux d'emploi ont peu de chances de remonter sur les niveaux qu'on observait par le passé, parce que malheureusement, il y a une partie de la population, on ne se rend peut-être pas assez compte du dégât que ça a fait, mais qui a été victime de cette crise des opioïdes et qui est beaucoup plus difficilement employable qu'on pourrait le souhaiter.
Au pire de la crise, il y avait, je crois, environ 200 morts par jour aux États-Unis à cause des opiacés. En effet, Bruno Demora Fernandez sur cette
Effectivement,
question.
Effectivement, et c'est vrai que ces difficultés d'offres, ces problèmes de recrutement qui devraient apparaître, en tout cas qui devraient être de plus en plus importants, même si effectivement l'économie américaine devrait continuer de créer des emplois, il nous semble inévitable qu'au final le rythme de création d'emplois se réduise et mécaniquement que l'économie décélère. Il y a un moment où on atteint une réserve, effectivement, qui devient insuffisante pour continuer d'accélérer, en fait. Donc, c'est pourquoi, notamment, en raison d'un cycle même hors crise, hors récession, lorsqu'on arrive en bout de cycle, on a des contraintes d'offres, on a de plus en plus de mal à recruter et donc à accélérer la production.
C'est à partir de 2020 environ que ce manque devrait se faire sentir, Christophe Blow, avec cette idée voilà, que la croissance américaine serait trop rapide et que la population en âge de travailler n'augmente pas aussi vite.
Ouais, effectivement, enfin, dans les prévisions de l'OFCE qui ont été publiées récemment, c'est à peu près le moment où on date d'un ralentissement un peu plus marqué de la croissance américaine. Alors globalement, nous, on anticipe aussi une croissance en 2019 un peu moins forte que 2018. Il y a un soutien budgétaire qui serait essentiellement réalisé en 2018 et qui serait un peu moindre en 2019. Et donc la question, c'est effectivement 2020. C'est là, vers la fin de ce cycle, effectivement, éventuellement alimenté par quelques tensions sur les prix qui pourraient du coup ralentir la compétitivité et faire des mécanismes de retour finalement hein, qui viendraient un peu ralentir la croissance. À ce débat-là va probablement aussi s'ajouter un autre débat qui est celui de la politique budgétaire. Et alors qu'on a appuyé sur l'accélérateur, est-ce que là, au moment où il va y avoir de nouvelles élections, est-ce que du coup, on va être tenté d'appuyer sur le frein ou pas ? Ça n'a pas été si simple que ça pour Donald Trump. Il a négocié sa réforme fiscale assez facilement, mais quand il voulait réduire les dépenses publiques, son objectif c'était de faire plutôt d'augmenter la fiscalité, de réduire la fiscalité, pardon, mais de plutôt faire baisser les dépenses. Or, en fait, l'accord au Congrès s'est fait, il n'a pu obtenir l'accord du Congrès qu'avec une augmentation des dépenses. Donc, potentiellement, dans les tuyaux, il y a un certain nombre de projets qui viseraient à plutôt réduire, peser sur la dépense publique, et notamment via les dépenses sociales.
Et alors, effectivement, la question qui se pose, qu'on commençait à évoquer, c'est celle de la hausse des salaires. Est-ce que s'il y a des tensions sur le marché du travail, il faut s'attendre à une hausse des salaires qui pourrait accélérer la consommation?
On retombe toujours sur le même problème, c'est que les salaires montent, c'est pas en soi une catastrophe non plus, si la productivité augmente, parce que ce qui compte pour les entreprises, c'est pas que les salaires montent, c'est de combien montent les coûts salariaux unitaires, c'est-à-dire combien ça leur coûte de produire une voiture. Si les employés qui font ces voitures sont plus productifs, le fait que leur salaire augmente est compensé par le fait qu'ils sont plus productifs. Donc la grande question, c'est de savoir si maintenant, on va observer le deuxième temps de ce qui était attendu il y a déjà quelques années, ou espéré il y a déjà quelques années. Autrement dit, est-ce que maintenant qu'on trouve plus de main-d'œuvre, on va constater que la productivité accélère? Et si on le constate, ça fera pas forcément de l'inflation. La deuxième chose qu'il faut rappeler, c'est que les entreprises ont des marges qui sont au niveau, un des niveaux les plus élevés hein, qu'on ait observé historiquement par rapport à ce point du cycle. Et donc, elles ont une certaine capacité à absorber, en réduisant leur marge de profit, d'éventuelles hausses des coûts salariaux. Donc, on n'est pas dans une situation où l'inflation est imminente.
Et vous parliez de possibles coupes sociales, Christophe Blow. L'un des impacts de la croissance, c'est tout de même un impact sur le taux de pauvreté. On peut dire aujourd'hui qu'il y a eu un véritable impact et un taux de pauvreté moins important depuis quelques années aux États-Unis.
À très court terme, effectivement, mais par l'effet de l'accélération de la croissance qui, en dépit de toutes les... toutes les inégalités et de la précarité qu'il y a dans la société américaine sur le marché du travail, effectivement, l'amélioration de la croissance et la baisse du taux de chômage, qu'on considère le taux de chômage au sens du BIT ou les taux de chômage élargis, font qu'il y a un peu moins de pauvreté sur les dernières années.
Et en même temps, plus d'inégalités.
Et puis en plus, ça ne compense pas l'augmentation assez massive de la pauvreté qu'on observait, d'inégalités qu'on observait depuis les années 80.
Donc, la pauvreté augmente moins vite.
Elle peut diminuer un peu à très court terme, mais sans revenir sur, enfin, en restant à des niveaux élevés et sans effacer, du coup, toutes les augmentations qu'on a observées depuis 80 avec plus d'inégalités et plus de pauvreté, une pauvreté assez forte.
Bruno Demora Fernandez.
Effectivement, et même si les faillites personnelles ont diminué en raison de la croissance qui a été rapide et des créations d'emplois, les problèmes structurels en termes sociaux restent les mêmes. On a toujours 2/3 des défaillances personnelles qui sont dues aux frais médicaux, en fait, qui sont un des vrais problèmes pour les ménages américains. Et notamment, selon une estimation, le coût total par an moyen des frais de santé est de $28,000 pour un ménage américain avec deux enfants. Donc imaginez le coût. Et encore une fois, désormais, on est en ce moment dans une période faste, mais en cas de retournement de cycle, alors effectivement, ces problèmes-là pourraient ressurgir. On pourrait très vite avoir à nouveau des hausses de faillite personnelle et un taux de pauvreté plus important.
Anton Brender, sur ce léger recul de la pauvreté
et
sur
non, il faut juste rappeler que la particularité de l'économie américaine, c'est que finalement, et c'est vrai pour la santé, mais c'est vrai pour le reste des dépenses, de l'assistance sociale, c'est une économie dans laquelle il y a assez peu d'assistance aux plus défavorisés. Et paradoxalement, c'est en maintenant l'économie le plus près du plein emploi qu'on fait le plus pour ceux qui sont défavorisés, parce que c'est à ce moment-là, d'abord, qu'ils trouvent un emploi, ensuite que les salaires peuvent monter, et ce sont eux aussi qui sont les premières victimes d'un ralentissement de l'activité. Donc tout le jeu, si je puis dire, aux États-Unis, c'est d'essayer de maintenir l'économie le plus près possible du maximum d'emplois. Et c'est ce que s'évertue aujourd'hui de faire la Fed, même si elle n'est pas complètement comprise par son président, elle le fait de façon relativement habile. Il faut espérer que ça va durer, hein, parce que sinon, eh bien, ce sont les plus pauvres qui vont perdre leur emploi et perdre et voir leur salaire ne plus progresser. Et les plus riches sont en général à l'abri des récessions, c'est ce qu'on constate en permanence aux États-Unis.
Et à cela s'ajoute la question de la guerre commerciale que Donald Trump semble avoir relancée ces derniers jours. On en parle dans un instant.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
J'ai vu New York, New York, USA. J'ai vu New York, New York, USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut, New York, New York, USA. J'ai vu New York, New York, USA. J'ai vu New York, New York, USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut, New York, New York, USA. Empire State Building,
oh, c'est haut.
Rockefeller Center,
oh, c'est haut.
International Building,
oh, c'est haut.
Waldorf Astoria,
oh, c'est haut.
Pan American Building,
oh, c'est haut.
Bank of Manhattan,
oh, c'est haut.
J'ai vu New York, New York, USA.
J'ai vu New York, New York, USA.
J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi
c'est
haut, New York, New York, USA. Diamond Life Building,
oh, c'est haut.
Americana Hotel,
oh, c'est haut.
CBS Building,
oh, c'est haut.
RCA Building,
oh, c'est haut.
First National City Bank,
oh, c'est haut.
Écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
C'était New York USA de Serge Gainsbourg et nous poursuivons notre discussion sur l'insolente croissance des États-Unis avec Anton Brender, Bruno Deborah Fernandez et Christophe Blot. Alors on a parlé de cette croissance inattendue, au moins plus élevée que ce qui était prévu au premier trimestre 2019. Pour bien comprendre à quoi elle est due, peut-être qu'il faut revenir sur le contexte actuel et le contexte notamment de la guerre commerciale. Ce que l'on observe, c'est que cette croissance, elle est avant tout lié à l'augmentation des exportations et à la baisse des importations, Anton Brender ?
Il y a une contribution qui est un peu moins négative des échanges extérieurs, mais ce n'est pas ça qui explique l'essentiel de la croissance.
L'amélioration de la balance commerciale.
C'est surtout la santé de la consommation. C'est la principale contribution à la croissance. On la trouve, et c'est elle qui a tendance à être la plus qui reste dynamique, c'est la consommation. La dépense publique, la consommation publique, il y a eu effectivement des dépenses de défense qui ont été augmentées, des dépenses civiles qui ont été augmentées. Pour obtenir ces dépenses de défense, Trump a dû accepter d'augmenter aussi les dépenses civiles. Mmh. Donc tout ça, ça a soutenu et ça soutient toujours l'activité. Le commerce extérieur, effectivement, a contribué aussi, mais l'essentiel de l'accélération qu'on vient d'observer, elle est due au stock, à l'accroissement des stocks. Il ne faut pas le tromper. Et ça, c'est quelque chose qui, au cours des trimestres qui viennent, va freiner au contraire la croissance. Donc il n'y a pas de miracle, je pense, lié à la politique commerciale, si c'était ça l'idée de Donald Trump.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie, cet accroissement des stocks dont vous nous parlez, et pourquoi ça aura un impact peut-être négatif sur la croissance dans les mois qui suivent ?
Négatif, tout simplement parce qu'on augmente les stocks parce qu'on ne réussit pas à vendre la totalité de ce qu'on espérait vendre, et donc on le vendra un peu plus tard, mais quand on le vendra, eh bien on n'aura pas besoin de produire ce qu'on a déjà justement en stock. Donc c'est assez mécanique, c'est tout bête, c'est que par moment les stocks s'accroissent un peu au-delà de ce qui était souhaité, et ensuite on va corriger et les stocks vont baisser et freiner un tout petit peu la croissance pour la même demande. Et là, ce qui compte, c'est le dynamisme de la demande. La demande intérieure américaine, elle est dynamique, mais soutenue principalement par la consommation et par les revenus des ménages.
Bruno De Mora Fernandez.
Oui, c'est vrai que effectivement sur le premier trimestre, on a eu une baisse des importations qui d'une part peut s'expliquer par le relatif ralentissement de la demande intérieure. On a eu, en tout cas sur le trimestre, une consommation des ménages un peu moins dynamique, un investissement d'entreprise également un peu moins dynamique. Mais on ne serait pas surpris en réalité de voir un rebond des importations, comme ça a déjà été le cas à chaque fois que les importations ont diminué sur un trimestre. Elles peuvent être volatiles d'un trimestre à l'autre. On ne serait pas surpris de voir un rebond des importations au deuxième trimestre.
Donc il ne faut pas y voir une certaine efficacité des mesures protectionnistes de Donald Trump.
Il est extrêmement difficile pour le moment de mettre cela au profit justement de...
Christophe Blow.
Non, pas du tout. Si on regarde globalement la position commerciale des États-Unis, il y a un déficit commercial qui reste relativement significatif, autour de 3% en fin 2018. Si on regarde le compte courant, les États-Unis n'ont pas été en excédent du compte courant depuis le début des années 80, donc c'est une économie qui reste dans une situation où il y a des déficits commerciaux et il y a des déficits courants, une dette extérieure qui reste significative. Ce qu'on observe au premier trimestre, probablement c'est difficile à expliquer parce que c'est assez facile à expliquer, mais il est difficile d'en tirer des conclusions trop hâtives, quoi. Parce que il y a beaucoup de volatilité dans les chiffres du commerce, et donc il est probable que les choses s'inversent assez rapidement, parce que effectivement la dynamique repose plutôt sur la demande intérieure que sur le commerce extérieur. Et il y a peu de chances finalement que la politique commerciale de Trump change ça, parce que effectivement s'il y a un déficit aux États-Unis qui est important, qui est un des points majeurs de la politique économique de Trump, qui est de dire je veux réduire les déficits vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'Union européenne. Et une grande partie de ces déficits tiennent aussi du fait que l'économie américaine est en situation de très bonne santé, c'est-à-dire qu'il y a une épargne domestique relativement plus faible qu'ailleurs. Donc c'est plus une question de gestion macroéconomique interne que de compétitivité relative ou de davantage exorbitant qu'aurait l'Union européenne ou la Chine vis-à-vis des États-Unis.
Ce qui pousse, en tout cas essentiellement aujourd'hui, la croissance, ou du moins peut-être en grande partie, Anton Brenders, c'est le pétrole et le gaz de schiste, et c'est ce qui aujourd'hui compte.
On ne peut pas dire que ça pousse la croissance, mais ce qui est sûr, c'est qu'on arrive à cette situation aux États-Unis où les hausses de prix de l'énergie n'ont plus exactement le même effet qu'il y a quelques décennies. D'habitude, une hausse du prix de l'énergie aux États-Unis comme en Europe, ça freinait l'économie, tout simplement parce que ça réduit le pouvoir d'achat des ménages qui dépensent plus, on le sait en France, lorsqu'ils mettent de l'essence dans leur voiture et donc qui dépensent moins sur le reste. Ça, c'était le modèle traditionnel qui est encore présent malheureusement dans la plupart des pays européens et qui est moins présent aux États-Unis parce que les États-Unis sont devenus de grands producteurs de pétrole. Et dès que le prix du pétrole monte, ce qu'on voit, c'est le secteur pétrolier recruter, produire plus, et le paradoxe, des chiffres qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, dans le secteur pétrolier, eh bien, on a une hausse de l'emploi qui est extrêmement significative, qui soutient l'activité et qui est presque du même ordre, si on regarde, que j'exagère un tout petit peu, mais que celle qu'on observe dans le secteur industriel que Trump a voulu promouvoir. Hein, parce qu'on est dans une situation où, effectivement, le prix du pétrole, aujourd'hui, stimule la production américaine.
Et au Texas, on a des taux de croissance comparables à ceux de la Chine, Bruno de Mora Fernandez.
Oui. D'ailleurs, l'agence statistique de l'énergie américaine prévoit que les États-Unis soient exportateurs nets de pétrole fin 2020. Donc assez vite, on voit clairement qu'ils ont réduit leur dépendance au pétrole importé, même si ces prévisions pourraient être quelque peu trop positives, on va dire, parce qu'il y a notamment en ce moment et depuis maintenant 3-4 mois, une réduction de l'accélération justement des puits de pétrole, en fait, des forages. Donc il faut voir si cette dynamique se poursuit, comment vont évoluer les cours du pétrole, et notamment lors des enquêtes de confiance menées auprès du secteur pétrolier. Certains disent qu'ils réduisent en quelque sorte leur expansion parce qu'ils ont peur justement de la volatilité des cours et également de l'imprévisibilité de la politique commerciale américaine.
Ce qui pourrait aller dans le sens d'un ralentissement de la croissance, Anton Brender.
Non, sur ce point, c'est intéressant de le rappeler, c'est qu'une des stratégies du côté des pays du Golfe, ça a été justement de rendre le plus instable possible maintenant le prix du pétrole, parce que c'est une des façons de freiner la production américaine, parce que les producteurs américains font des investissements, et ils en font moins, hein, s'ils ne sont pas sûrs de l'évolution du prix. Donc la volatilité du prix, c'est une arme qui dissuade la production de pétrole aux États-Unis, en tout cas qui l'a ralenti.
Et alors, alors que les négociations commerciales avec la Chine se poursuivent, Donald Trump a finalement mis ses menaces à exécution. Après 5 mois de trêve commerciale, les taxes sur 200 milliards de dollars de produits chinois sont passées de 10 à 25% cette nuit. Quel impact est-ce que ces mesures pourraient avoir sur l'économie américaine, Christophe Blow?
Alors, c'est des impacts assez compliqués au niveau à la fois macro, de chiffrer significativement l'effet de cette augmentation des tarifs douaniers sur les produits chinois, et probablement qu'il y a des impacts microéconomiques assez importants. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des secteurs qui vont sentir plus protégés, donc potentiellement on va produire plus aux États-Unis, mais d'un autre côté, il y a un certain nombre d'entreprises ou de consommateurs qui vont continuer malgré tout à importer des produits chinois et qui vont payer ces produits plus chers. Et donc du coup, avec des baisses en termes de pouvoir d'achat. Donc il peut y avoir un effet de compétitivité, mais il peut être relativement faible, et un effet de pouvoir d'achat qui peut être assez négatif. Ensuite, probablement qu'un des points essentiels, me semble-t-il, plus que l'aspect éventuellement macroéconomique, à mon avis, de cette augmentation des tarifs, c'est de voir en quoi ça peut permettre de déboucher sur un accord commercial que les États-Unis jugeront bon ou pas bon. Et donc, c'est plus une arme de pour amener à discuter, éventuellement montrer qu'on est crédible parce qu'on est capable d'appliquer les sanctions et on n'a pas peur de le faire, pour voir après ce qu'on peut négocier avec les Chinois, avec les négociations qui ont repris récemment.
Et justement, en l'occurrence, qu'est-ce que Donald Trump cherche aujourd'hui à négocier, Anton Brender, sachant que l'enjeu pour lui, c'est évidemment très important en vue de la présidentielle de 2020. Il faut qu'il montre qu'il a su faire plier les Chinois sans que l'économie américaine soit pour autant menacée, impactée.
Je pense qu'il veut montrer effectivement qu'il obtient, je ne sais pas s'il veut faire plier, mais en tout cas il veut obtenir des Chinois des choses que visiblement les Chinois hésitent à accepter. En particulier, il voudrait qu'on mette dans la loi chinoise des dispositions qui protégeraient les entreprises du monde entier, mais en particulier les entreprises américaines en matière de droits de propriété intellectuelle, de toutes ces choses-là. Et ça,
avec l'idée de forcer la Chine à tenir ses engagements.
Non, mais si c'est dans la loi chinoise, ils seront forcés de le tenir. Mais justement, ils n'ont pas envie qu'on leur dicte ce que doivent être leurs lois. Et ça fait partie des raisons, semble-t-il, parce qu'on n'est pas
qui bloque aujourd'hui
les négociations. Qui ont conduit au blocage des négociations.
Bruno de Mora Fernandez.
D'ailleurs, il me semble qu'au-delà du bruit en réalité généré par l'élection de Donald Trump et ensuite sa façon, on va dire, peu conventionnelle de gérer les relations commerciales, probablement ces relations et ces tensions entre la Chine et les États-Unis n'en sont qu'à leur premier épisode. En réalité, on fait face à une tendance de long terme, et d'ailleurs, on voit même que les candidats démocrates ont beaucoup de mal à se positionner par rapport justement à cette guerre commerciale vis-à-vis de la Chine. Eux-mêmes ont du mal à condamner en réalité ce que fait Donald Trump. Peut-être il s'y prendrait d'une façon différente, mais un candidat comme Bernie Sanders n'est pas non plus un apôtre du libre-échange, et eux-mêmes, en fait, quel que soit le candidat démocrate qui accéderait ensuite à la présidence potentiellement, lui aussi tenterait, encore une fois, de négocier de plus en plus avec les Chinois, peut-être d'une façon différente.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a peu de chances finalement que cette guerre commerciale coûte politiquement à Donald Trump.
ça va essentiellement dépendre en réalité de ce qu'il arrive à obtenir. Si au final il arrive effectivement à faire plier les Chinois, ou en tout cas à vendre l'accord qu'il arrive à négocier, sauf si effectivement on tombe ensuite vers une récession, on pourrait l'accuser de l'avoir déclenché. Mais sinon, effectivement, il a peu à perdre en fait dans cette guerre-là, parce qu'il doit mobiliser notamment tous ses supporters, et que encore une fois s'attaquer à l'ennemi entre guillemets chinois, quelque chose d'assez populaire dans son électorat.
L'économie américaine est tout de même suspendue aujourd'hui, Christophe Blot, à l'issue de ces négociations qui continuent actuellement.
Non, ça fait partie des éléments, des facteurs de risque qu'on a pu évoquer. C'est-à-dire, si cette guerre commerciale trouve pas d'issue favorable en termes d'accords négociés avec les États-Unis et la Chine, du coup, on voit que si pour l'instant, en fait, l'économie américaine continue à très bien se porter, cette guerre commerciale, elle crée des tensions sur l'économie mondiale. Ça crée de l'incertitude. Cette incertitude fait qu'un certain nombre d'entreprises vont potentiellement hésiter à investir créer des réseaux de distribution dans les pays étrangers, pour éventuellement investir, pour améliorer et produire ou exporter vers d'autres biens. Et donc, un des risques potentiels, au même titre qu'on a parlé du risque sur les marchés financiers, du risque lié à la politique budgétaire, qui est un risque finalement que la guerre commerciale touche les États-Unis par son effet, finalement, indirectement, par un ralentissement de l'économie mondiale un peu plus fort, qui est en lien avec ces tensions.
Et peut-être que les États-Unis, justement, avec la puissance économique dont ils disposent, souffriraient moins d'une guerre commerciale, peut-être que d'autres pays en demande d'air.
À court terme, ils souffriront pas beaucoup. Toutes les estimations, c'est que ça peut coûter quelques dixièmes de points de croissance aux États-Unis. Le problème, c'est que c'est très malvenu, parce que l'incertitude, comme Christophe vient de le rappeler, elle paralyse les décisions, et en particulier les décisions d'investissement. Or, aux États-Unis, on l'a dit, dont on a le plus besoin aujourd'hui pour que la croissance puisse rester soutenue, comme le souhaite Donald Trump, c'est de gains de productivité. Or, les gains de productivité, ce qui les alimente, c'est les investissements. Et donc, on a une situation dans laquelle Trump voudrait que l'économie croisse plus vite. Pour qu'elle croisse plus vite, elle a besoin de faire plus de gains de productivité. Mais si on paralyse par l'incertitude l'investissement, on a peu de chances d'obtenir ces gains de productivité. Ça, c'est la première chose qu'il faut garder en tête. Et la deuxième, si on regarde un tout petit peu plus loin, c'est que la politique qu'il mène est une politique à courte vue. Pourquoi ? Parce que on est en train petit à petit de considérer, je crois que ça a été dit, la Chine comme un pays ennemi. Alors que c'est quand même, qu'on le veuille ou non, le marché qui sera le plus dynamique du monde, et qu'on risque d'en couper une partie des entreprises américaines. Et c'est aussi pour ça que les entreprises américaines sont très inquiètes de ce qui se passe, c'est qu'elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas se couper de ce qui sera demain la plus grande économie du monde et le marché qui restera longtemps le plus dynamique du monde. Donc c'est à courte vue ce qui est fait, et assez dangereux finalement quand on regarde à plus long terme.
Alors on arrive presque au terme de cette discussion. Je le disais en introduction, la cote de popularité de Donald Trump atteint des sommets. Elle vient de franchir la barre des 45% selon l'Institut Gallup, une première depuis son arrivée à la Maison Blanche. Il devrait pouvoir se targuer d'un solide bilan économique dans 18 mois lors de la prochaine élection présidentielle. Bruno de Mora Fernandez.
Jusqu'à présent, oui. Et il va effectivement tourner les événements en sa faveur, effectivement, en disant que c'est grâce à sa politique fiscale que la croissance est là, que la croissance a accéléré. Il va citer effectivement ce chiffre de 3,6%, qui est le taux de chômage le plus faible depuis 50 ans. Donc, ça va ensuite dépendre. Est-ce qu'il y aura entre-temps un fort ralentissement, une récession? Certains évoquent une potentielle récession en fin d'année, début d'année prochaine. Il faut voir comment l'économie évolue, mais jusqu'à présent, effectivement, même si, comme nous l'avons dit au cours de cette émission, d'ailleurs, c'est plus nuancé que cela, lui va en tout cas se targuer d'avoir ce bilan grâce à lui, en fait.
C'est la fin de ce débat. Grand merci, Antoine Brender, Bruno de Mora Fernandez et Christophe Blot, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va continuer à suivre de près, notamment les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis. Mais pour l'heure, il est temps pour nous de retrouver la bibliothèque idéale de l'écho. Et comme chaque vendredi, on vous propose un essai qui a marqué l'histoire de la pensée économique. Aujourd'hui, direction les États-Unis avec Claudia Goldin, l'autrice de « Comprendre l'écart entre les sexes, une histoire économique des femmes américaines ». Et c'est Dominique Meurs qui est venu nous en parler. Bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes économiste, professeur à l'université Paris-Ouest-Nanterre La Défense, chercheuse au laboratoire Economics et directrice exécutive de la chaire Travail à la Paris School of Economics. Alors l'essai de Claudia Goldin, Comprendre l'écart entre les sexes, a été publié en 1990 et retrace près de 200 ans d'inégalité au travail entre les hommes et les femmes aux États-Unis. Comment Claudia Goldin, qui est aujourd'hui professeure d'économie à Harvard, en est-elle venue à s'emparer de ce sujet, Dominique Meurs?
Alors c'est un sujet qui l'a saisi très tôt, après sa thèse. Donc c'est une économiste classique, une historienne de l'économie, d'histoire économique, formée à Cornell, ensuite à l'école de Chicago, en compagnie de Baker. Donc le cadre qu'elle utilise est un cadre extrêmement standard, néoclassique. Mais néanmoins, ce qui va l'intéresser, c'est de regarder ce qui s'est passé du côté du taux de participation des femmes sur longue période. Et cet ouvrage reprend en fait différents travaux qu'elle a poursuivis dans les années 70 et 80.
Taux de participation au monde du travail.
Taux de participation au travail salarié. Et c'est là, en regardant, en plongeant dans les archives nationales, en regardant les statistiques, qu'elle s'est aperçue qu'il y avait un manque, c'est-à-dire qu'on ne savait rien sur les femmes mariées avec enfants. C'était un trou dans les statistiques, puisqu'elle ne participait pas au marché du travail. Et donc ça l'a amenée à s'intéresser vraiment à la question de la participation des femmes au marché du travail, aux conditions de la participation de ces femmes. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que par ce biais d'introduire les femmes sur le marché du travail, elle a secoué l'économie du travail. On est sorti des schémas standards, on était en train d'en sortir, mais elle a vraiment bousculé là-dessus, des schémas standards où, avec l'homo economicus. En lui donnant un sexe, on a changé les choses. C'est-à-dire que, du coup, il fallait tenir compte des institutions, des normes sociales, de l'histoire familiale, etc. Donc, ça a donné de la chair à ce qui se passe sur le marché du travail, à mieux comprendre ces tensions entre les institutions, les normes sociales et les demandes du point de vue économique. Toute son œuvre va être sous cet angle-là de comprendre ce qui se passe.
Alors, ce que montre Claudia Goldin dans son essai, c'est qu'il y a eu de grandes vagues d'augmentation du nombre de femmes dans le monde du travail et non pas une progression constante comme ce que l'on pourrait imaginer.
Effectivement. Alors, dans son œuvre, en fait, il y a trois grandes périodes. Sa première œuvre, celle qui est citée l'ouvrage, c'est la question de ce qui s'est passé dans les années 1920-1930, donc la Grande Dépression aux États-Unis, alors que les femmes avaient commencé à conquérir une place sur le marché du travail dans les emplois qualifiés. Donc il était maintenant de plus en plus admis socialement que les femmes mariées travaillent. Mais avec la Grande Dépression, il y a eu un retour pour les renvoyer au foyer. Donc la priorité aux hommes sur le marché du travail. Et là-dessus, il y avait une institution dans le monde anglo-saxon, particulièrement aux États-Unis, qui était une discrimination légale. Il était tout à fait possible de refuser d'embaucher une femme parce qu'elle était mariée ou de la licencier après son mariage.
Ce qu'on appelait les marriage bars.
Exactement. Et donc ça concernait énormément les institutrices, mais aussi du personnel qualifié pour des travaux administratifs.
Et alors c'est intéressant parce qu'effectivement, les femmes étaient ainsi forcées de quitter leur travail une fois mariées et ne pouvaient pas travailler après leur mariage. Et c'est une législation qui va durer un certain temps.
Ah oui, parce que ça va s'éteindre très progressivement dans les années 40-50. Alors ça concerne pas seulement les États-Unis, ça concerne aussi le monde anglo-saxon, l'Angleterre, l'Irlande, pendant très longtemps. Mais donc, pour revenir sur les États-Unis, ça va s'éteindre dans les années 50 parce qu'au sortir de la guerre, il y avait énormément besoin de personnel qualifié. Et donc, cette règle institutionnelle a cédé sous le coup des besoins en termes de main-d'œuvre.
Il y a en particulier une très forte demande à partir des années 30 d'employés de bureaux et en même
Absolument.
Temps une plus grande éducation des femmes qui vont de plus en plus au lycée.
Alors, il y a ça, mais alors ça, c'est un petit peu plus, si vous me permettez, l'histoire de l'éducation, ça va commencer là, mais va surtout prendre un tournant dans les années 60-70. Et ça, c'est le deuxième article, qui n'est pas dans son livre, mais le deuxième article fondateur de Claudia Goldin, ce qu'elle a appelé la révolution tranquille. Et donc, ce qu'elle met en lumière, c'est que le fait qu'il y ait la pilule, les méthodes contraceptives, donc quelque chose qui se situe en dehors du jeu économique, hein, c'est une innovation fondamentale, médicale, va complètement changer la donne sur le marché du travail entre les femmes et les hommes. Premièrement, maîtriser sa fécondité, ça change votre horizon temporel. C'est-à-dire que les femmes peuvent se projeter dans un avenir beaucoup plus long. Mais là, maîtrise de la fécondité, ça veut dire je peux poursuivre des études, je peux me projeter dans une carrière. Donc on change l'horizon temporel.
Et parallèlement à ça, il y a une augmentation du taux de divorce. Et là encore, oui, ça a eu un impact ?
Oui, mais alors, en fait, fondamentalement, c'est ce qu'elle dit, c'est surtout la maîtrise de la fécondité. Alors, parce que c'est là qu'on a l'entrée majeure des femmes dans l'enseignement supérieur, qui vont faire des études longues. Elles vont pouvoir se projeter dans des carrières. Et surtout, alors c'est là que je vais vous rejoindre sur le divorce, elles vont avoir une autonomie économique qui change les rapports dans le couple, puisqu'elles peuvent travailler, elles ont une indépendance économique. Et donc ça change aussi la négociation au sein des couples. Donc là encore, grosse révolution.
Alors il y a plusieurs étapes. C'est d'abord la révolution industrielle au début du 19e siècle qui provoque une arrivée massive des Américaines sur le marché du travail. Et une cinquantaine d'années plus tard, la révolution des cols blancs et des emplois de bureau va aussi entraîner une deuxième vague.
Oui, absolument. C'est ce qu'elle décrit. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'elle dit, ce qui a déjà été dit, ça c'est pas particulièrement original, c'est que les femmes ont toujours travaillé. Mais elles étaient invisibles dans leur travail, puisqu'elles étaient dans du non-marchand ou dans des travaux indépendants ou des travaux agricoles, etc. Donc, un travail non comptabilisé. La révolution industrielle, en favorisant le salariat, favorise le salariat des femmes et donc également leur visibilité. Et effectivement, les transformations économiques font qu'il y a eu des besoins en col blanc et que les femmes ont pu occuper ces postes. Et donc, le mariage bar, pour reprendre ce terme, qui est des années 30, en fait, est un recul par rapport à ce qui se passait immédiatement dans l'après-guerre de 14-18.
Et en même temps, ce que nous dit Claudia Goldin, c'est que de la fin du 19e siècle aux années 1920, ce sont plutôt des femmes jeunes et célibataires qui travaillent.
Oui, c'est ça. Puisqu'il y a cette disparition des femmes mariées avec enfants du marché du travail.
Et alors, qu'est-ce qui caractérise le travail des femmes dans la dernière période qu'elle décrit des années 50 aux années 70? On en a un petit peu parlé.
Ben là, c'est là qu'on a ce tournant de la révolution tranquille, ce qu'elle appelle, donc ce que j'ai dit, la révolution liée aux techniques de contraception. Pour elle, c'est ça vraiment la révolution, la rupture essentielle. Rupture dans les normes sociales, rupture dans les engagements au travail et puis dans l'éducation. Dans son œuvre, en fait, on peut distinguer les trois phases. La période longue, 19e, début du 20e siècle. La période plus courte, la révolution tranquille, les années 60 jusqu'aux années 2000. Et là, elle est arrivée à la dernière phase. Donc, dans un article qui est paru très récemment, en 2014, donc relativement récemment, qui a suscité beaucoup de débats, parce qu'elle aboutissait à un résultat, mais qui était atteint par à peu près, sur lequel il y a accord d'à peu près tous les économistes du travail, c'est que, pour expliquer les inégalités sur le marché du travail entre les femmes et les hommes, on avait avant deux instruments, c'était différence d'éducation, différence de participation, interruption de carrière, etc. Ces deux facteurs sont devenus quasiment identiques pour les femmes et pour les hommes. Il y a encore des petites différences, mais c'est du second ordre par rapport aux années 50, 60, où là, on avait des différences massives qui expliquaient des différences de salaire énormes.
Donc ça ne permet plus d'expliquer les discriminations en termes de salaire.
On ne peut plus expliquer les inégalités, pas discrimination, les inégalités en termes de salaire. Et donc, il y avait tout un courant qui disait les politiques à faire, c'est des politiques sur de conciliation, vie familiale, vie professionnelle, etc. Et là, Claudia Goldin, finalement, renverse la table en disant, dans un article qui s'appelle « The Last Chapter », le dernier chapitre, en disant « Ouais, ça peut pas faire de mal, mais ce qui compte, c'est ce qui se passe dans l'entreprise, dans l'organisation du travail dans l'entreprise ».
Et notamment sur la question des temps partiels. Elle
insiste
beaucoup là-dessus.
Et donc sur cette question des temps de travail et de la rémunération de ces temps. Et donc, son raisonnement, c'est qu'il y a des demandes de flexibilité horaire, selon vos temps de la vie, en fonction de vos contraintes familiales, mais ça peut être aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et il y a des métiers pour lesquels ce n'est pas un problème, puisque les taux horaires ne vont pas être modifiés selon votre nombre d'heures de travail.
Elle parle par exemple des pharmaciens qui peuvent choisir leurs horaires aux États-Unis.
Absolument, elle parle des pharmaciens parce que effectivement, un pharmacien peut en remplacer un autre. Le concept économique qu'elle met en avant, c'est la plus ou moins degré de substituabilité du travail. Donc si vous pouvez être remplacé, que vous fassiez 15 heures, 20 heures, 30 heures, vous allez gagner plus en fonction du nombre d'heures, mais c'est linéaire.
À l'opposé, le métier d'avocat
à l'opposé
est un des
métiers
les plus difficiles pour les femmes.
Absolument. D'ailleurs, toute sa réflexion était partie de l'examen des cohortes de sortantes de grandes écoles qui avaient des trajectoires différentes selon leur spécialité, puisqu'on notait que pour celles qui sortaient de médecine, etc., elles continuaient sur le marché du travail, tandis que celles qui sortaient de la finance ou de droit, ces carrières s'interrompaient et elles faisaient ce qu'on appelait l'opting out, elles sortaient de leur carrière.
Et alors, pour quelle raison le métier d'avocat en particulier est l'un des plus difficiles?
C'est parce que c'est cette histoire de substituabilité, c'est-à-dire que vous avez une relation particulière avec votre client, vous ne pouvez pas être remplacé. Vous n'êtes pas quelqu'un de standard et donc l'entreprise va valoriser votre travail en vous payant très cher des heures très longues. Et donc sa conclusion, qui je vous dis fait vraiment débat, qui a suscité énormément de débats, c'est de dire il faut standardiser davantage les emplois.
Et alors qu'est-ce que vous en pensez de cette idée de standardiser davantage, de rendre finalement les tâches substituables d'une certaine façon?
Je pense que ça s'applique bien au cas des États-Unis où la flexibilité horaire est beaucoup mieux acceptée. Dans d'autres pays, notamment la France, où on lie la présence au travail à la carrière, ça peut quand même être négatif. Mais donc là, c'est un truc, mais je trouve que c'est quand même un point intéressant à regarder, d'avoir plus de collaboration dans le travail et plus de substituabilité, d'avoir en fait un travail davantage en équipe.
Et alors un autre apport de Claudia Goldin, c'est ses recherches sur le recrutement des musiciens dans les orchestres.
Je voulais en parler,
et c'est là qu'elle démontre l'utilité du CV anonyme. Alors de quelle façon le démontre-t-elle?
Donc Claudia Goldin, c'est quelqu'un qui cherche toujours des sources, qui se pose des questions. Et sa question qu'elle s'est posée, c'est pourquoi il y avait si peu de femmes dans les orchestres symphoniques aux États-Unis dans les années 50 et pourquoi ça a progressé énormément dans les années 60-70. Alors il y avait deux hypothèses en compétition. La première, c'est qu'il y avait davantage de musiciennes sur le marché. Elles se formaient, elles se présentaient. La seconde, c'est que les orchestres symphoniques changeaient leur mode de recrutement en utilisant un paravent. Donc le rideau, c'est-à-dire que les auditions se font à l'aveugle et on décide uniquement à l'oreille. Donc c'est en cela que ça ressemble au CV anonyme. Donc ils ont fait, avec Cécile Rose, ils ont fait une étude économétrique extrêmement poussée en panel, dont la conclusion était que pour les orchestres qui avaient changé de mode de recrutement, ça avait accru le nombre de musiciennes. Donc ça avait eu un impact sur le nombre de musiciennes.
Pour conclure, Dominique Meurs, pourquoi faut-il sans attendre se plonger dans les travaux de Claudia Goldin, selon vous?
Parce qu'elle remue beaucoup d'idées. Ce n'est pas seulement une technicienne, ce n'est pas seulement de l'économétrie, ce n'est pas seulement du travail sur les données. C'est aussi se poser des questions, utiliser énormément d'approches, enrichir l'approche économique et mieux comprendre le monde du travail.
Merci beaucoup Dominique Meurs d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je renvoie les éditeurs à votre livre « Hommes-femmes, une impossible égalité professionnelle » qui est paru aux éditions...
Point d'interrogation.
Avec un point d'interrogation, bien sûr. Paru aux éditions Rue d'Ulm. Un grand merci à vous.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree.
On se quitte avec Nina Simone, Feeling Good. La semaine prochaine, on vous consacrera une nouvelle série aux penseurs du libéralisme, avec en particulier la figure de Léon Valras, sur laquelle on s'intéressera, à laquelle on s'intéressera dès lundi. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre au Centre Pompidou à Paris ce week-end pour la 4e édition du Week-end Imagine, organisée par France Culture et le Centre Pompidou. Quelle histoire ? Point d'exclamation, c'est le thème qui a été retenu cette année. L'entrée est libre et on vous attend nombreux. Et comme toujours, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur franceculture.fr et en podcast, et nous rendre visite sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. Excellent week-end et à lundi.